Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. En ce moment à Paris, au Grand Palais, la grande exposition rouge « Art et utopie au pays des soviets » donne à voir avec ses 400 œuvres, dont la plupart d'ailleurs n'ont jamais été montrées en France, la manière dont le projet de société communiste a engendré des formes d'art spécifiques en URSS. De 1917, date de la révolution d'octobre, à 1953, l'année de la mort de Staline, le parcours chronologique de l'expo interroge le contexte social et politique particulier et ses soubresauts et les influences de ces soubresauts sur les artistes. Le commissaire de l'expo, Nicolas Liouchi-Gutnikov, est notre invité ce matin. Corinne Amar et Maël Ray à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, Claude Nior à la prise de son, le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
C'est une grande et passionnante exposition qui vient d'ouvrir. Et pour ceux qui n'habitent pas la capitale, si vous devez passer par Paris d'ici le 1er juillet, surtout, réservez un peu de votre temps pour aller au Grand Palais voir Rouge, art et utopie au pays des soviets. Cette exposition raconte comment la Russie de la révolution d'octobre 1917 va façonner la création artistique, peinture, sculpture, architecture, photographie, cinéma, design, art graphique, avec quelques prêts incroyables du musée Pushkin de Moscou, entre autres. Et puis cette exposition pose la question comment de la révolution bolchevique à Staline, suivant un parcours allant de 1917 à 1953, comment l'URSS va gérer cette création artistique au fur et à mesure des changements politiques. Bonjour Nicolas Liouchi-Gutnikov, vous êtes commissaire de cette exposition, vous êtes par ailleurs conservateur au musée Pompidou. D'ailleurs c'est une coproduction entre le musée Pompidou et le Grand Palais, cette exposition consacrée à l'art soviétique.
Bonjour tout fait qu'absolument, et merci beaucoup pour ces gentils mots introductifs. L'exposition est une coproduction en effet entre le Grand Palais et le Centre Pompidou, et elle traite de cette période assez compliquée qui a vu naître des formes d'art ayant voulu ou pensé pouvoir participer à l'édification de cette société nouvelle dont les artistes ont rêvé au moins au début.
Oui, parce que l'exposition montre aussi bien des artistes qui vont complètement adhérer à cette révolution, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette expo, on voit aussi comment cette création artistique qui était très forte va devoir se conformer aux orientations politiques. Donc il est aussi question de rapport de force entre l'envie des artistes d'innover et les contraintes idéologiques. Donc c'est un questionnement sur ce que doit être l'art dans la nouvelle société socialiste. Comment est née l'idée de cette exposition?
Elle est née sans doute de plusieurs expositions que j'ai pu voir pour le centenaire de la révolution d'octobre, qui m'ont frappé puisqu'on avait tendance à y voir les œuvres canoniques de l'histoire de l'art russe, et elles m'ont semblé interroger peut-être pas assez la façon dont les artistes avaient voulu ou avaient dû, en fonction des périodes bien sûr, s'associer à ce projet politique. Et donc, j'ai souhaité profiter de la structure de l'espace d'exposition en deux espaces superposés, un rez-de-chaussée, un premier étage.
Au Grand Palais de Paris.
Exactement, haut de plafond et un premier étage bas de plafond pour construire mon propos décomposé en deux périodes très distinctes, à la fois en termes politiques et en termes artistiques. Une première période, les années 20, qui sont dominées par un projet de fusion de l'art dans la vie. Les artistes, notamment constructivistes, vont vouloir abandonner les formes d'art dites bourgeoises, la sculpture, la peinture, les ennuis. Ils veulent participer directement au changement du mode de vie qu'exige le socialisme et vont donc s'intéresser à des disciplines en prise directe avec la vie, le théâtre, le design, l'architecture,
ouais, les arts imprimés. Beaucoup d'architecture d'ailleurs. Hein.
Absolument.
C'est une période d'utopie là.
C'est une période d'utopie. Ces artistes sont très touchants par leur innocence puisque lorsqu'on voit leurs œuvres et lorsqu'on lit leurs écrits, on se rend compte qu'ils y ont cru à cette belle utopie du communisme. Mayakovsky, dès après la Révolution, va passer un ordre à l'armée des arts. Il va dire que les rues sont nos pinceaux, les places sont nos palettes. Il va vouloir que l'art sorte de sa sphère bourgeoise pour envahir la ville et de façon plus générale la vie. Ensuite, les constructivistes vont vouloir passer à un art de la production, un art qui puisse rendre à l'homme une dimension active, permettre à l'homme de dominer les objets eux-mêmes.
Donc ils vont inventer des objets, carrément.
Inventer des objets, des objets qui vont être escamotables, transformables, vraiment mis au service de cet homme nouveau. Les architectes vont vouloir également rénover complètement la façon dont on orchestre la vie. On va mettre en place des clubs ouvriers pour l'édification intellectuelle des ouvriers, leur instruction bien entendu. Et puis on va aussi collectiviser, en tout cas essayer de collectiviser certains aspects de la vie privée. On va voir donc naître des immeubles communaux dans lesquels les appartements privés vont se réduire aux fonctions les plus essentielles du privé, c'est-à-dire grosso modo la chambre, là où l'on dort.
Et sinon, et pour tout le reste, la cuisine,
pour tout le reste,
c'est pour tous les voisins.
La salle à manger, la garderie, la bibliothèque, tout cela est partagé. Dans l'exposition, on montre un film documentaire absolument extraordinaire qui s'appelle « La première maison commune de jeunes ouvriers à Leningrad » dans lequel on voit la vie de jeunes ouvriers dans une maison commune.
Et une bourgeoise parmi ces ouvriers.
Une bourgeoise qui est la matrone un peu de la maison. Mais donc, ils sont dans leur dortoir, ils dorment tous ensemble. À 6h pile, ils se réveillent, branlent bas de combat, ils font leur lit. Ils se réunissent tous dans une salle pour faire de la gymnastique. Suite à quoi, ils vont prendre leurs vêtements dans une armoire commune. Les vêtements sont communs. Ils ne s'intéressent pas trop finalement à l'allure des vêtements. Ils les prennent en fonction de la taille.
Et c'est la première fois qu'on voit ce film.
La première fois qu'on voit ce film. Le programme filmique est extraordinaire. Je le dis en toute modestie puisqu'il a été réalisé avec une grande historienne de l'art de cinéma soviétique, Valérie Posner, qui nous a beaucoup aidé et qui a trouvé des pépites absolument extraordinaires, à la fois en matière de films documentaires et de films de fiction.
Voilà, il y a des films, il y a aussi des maquettes, des objets, des peintures, des livres.
Absolument, puisque ces artistes constructivistes ont voulu faire tout sauf de la peinture et de la sculpture. Donc ils se sont beaucoup intéressés aux arts imprimés. Pour eux, les arts imprimés avaient l'intérêt majeur de pouvoir être diffusés en masse, et contrairement aux artistes dada qui ont pratiqué le photomontage tout comme les artistes constructivistes, artistes dada qui les produisaient en quantité unique, enfin de façon en exemplaire unique, les artistes constructivistes ont tout de suite été intéressés par cette idée de diffusion massive de leur production.
Est-ce que c'est la révolution qui va changer la manière pour chaque artiste d'envisager son art? Par exemple, est-ce que Alexandre Rodchenko, puisque quelques belles pièces de ce grand peintre, de ce grand artiste se sont montrées dans cette exposition, est-ce qu'il a radicalement changé? Ou est-ce qu'il s'est plus ou moins fondu dans la nouvelle idéologie soviétique?
Rodchenko va infléchir radicalement son art à partir de 1921. Rodchenko est un des premiers artistes constructivistes, disciple de Tatlin, qui élabore dès 18-19 des peintures de construction spatiale et quelques éléments aussi tridimensionnels. En 1921, il expose à une exposition très fameuse, l'exposition 5 x 5 égale 25, dans laquelle 5 artistes, dont lui, sa femme Stepanova ou la grande artiste Lyubov Popova, vont exposer chacun 5 œuvres qui vont être le manifeste pour eux de la fin de leur attachement aux beaux-arts et du début d'autres choses. Et dans cette exposition, Rodchenko expose les 3 premiers monochromes de l'histoire de l'art, pur jaune, pur bleu et pur rouge, qui ne sont en fait que de la couleur pure appliquée sur une toile. Et le grand critique d'art Tarabukin dira 2 ans après de Pur Rouge qu'il est le dernier tableau après lequel la peinture doit se taire. Nous montrons ce tableau Pur Rouge dans l'exposition, il est tout à fait à l'entrée de l'exposition. C'est absolument un peu le manifeste de cette exposition, puisque nous mettons absolument l'accent sur ce choix radical lorsqu'on y pense, de la part de ces artistes, d'absolument vouloir rompre avec ces arts jugés bourgeois pour un art qui s'adresse aux masses.
Alors l'exposition Rouge, art et utopie au pays des soviets, Nicolas Liouchi-Gutnikov est en deux parties, vous venez de le dire. La première partie met en exergue un peu tout ce foisonnement de questionnements autour de l'art, comment révolutionner l'art en même temps que la société, que la politique. Et là, on a effectivement de nouvelles formes qui apparaissent, surtout en architecture, très très présentes d'ailleurs dans cette exposition. Et puis, il y a la deuxième partie, et ça c'est la reprise en main par Staline, la fin d'ailleurs de cette créativité sans frontières, puisque c'est complètement repris cette fois-ci par un ordre politique et par une censure étatique.
Tout à fait. Ce qu'il faut préciser, c'est que durant les années 20, vous avez en URSS, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un relatif pluralisme dans les arts. Certaines factions du parti, notamment la faction trotskiste ou Boukharine, vont défendre l'idée que le parti n'a pas interféré dans la politique artistique et que les artistes, à condition d'être des compagnons de route du parti, peuvent aller dans différentes directions formelles. Ce qui explique que dans les années 1920, vous avez différents groupes qui coexistent, certains traditionnalistes, des peintres réalistes, parfois assez ennuyeux, et puis ces constructivistes dont on a parlé. Lorsque Staline arrive au pouvoir en 1929, qu'il a éliminé en tout cas tous ses opposants et qu'il contrôle tous les appareils de l'État et que le pouvoir totalitaire se met en place de façon extrêmement rigide, il va vouloir reprendre en main en effet la création artistique. En 1932, il ordonne la dissolution de tous les groupes artistiques au profit d'une union des artistes qui devait être créée et qui sera créée plus tard. Et en 1934, son sbire Andrei Jdanov, son sbire à la culture pourrait-on dire, énonce comme mot d'ordre le réalisme socialiste qui va désormais être la doctrine vouée à régir l'ensemble de la production artistique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jdanov l'énonce, elle ne correspond à pas grand chose de précis en matière picturale, et il faudra attendre à la fin des années 30 pour qu'on voit aboutir un kitsch académique dont on montre quelques exemplaires très édifiants à la fin de l'exposition. Tout au long de ces années 30, on a donc quelques artistes qui vont évidemment revenir à une peinture figurative, tout en essayant d'interpréter les désirs de l'État, qui vont être des désirs de représentation d'images extrêmement positives.
Exemple.
De grandes peintures sur des thématiques sportives. Une des peintures que nous montrons dans l'exposition s'appelle « Donbass après la pause déjeuner ». Elle est réalisée par un grand peintre, à mon sens, un très grand peintre que l'on devrait beaucoup mieux connaître en France, qui s'appelle Alexandre Deïneka. On y voit visiblement de jeunes mineurs, puisqu'on est dans le Donbass,
qui sont à poil, on peut le dire.
Sont à poil dans l'eau, qui sortent
très
visiblement.
Beau tableau. Et immense tableau.
Très beau tableau, immense tableau. Ce sont donc des mineurs qui sont censés être en pause déjeuner. Ils sont en train de prendre un bain dans une rivière et de jouer au ballon. Ils sont nus, ils sont animés visiblement par une forte volonté. La composition de Deïneka est tout à fait stupéfiante. On voit combien il a incorporé les acquis de la photographie et du photomontage de ses maîtres constructivistes.
Mais alors là, il contourne la propagande où il sent dans ce qu'on attend d'eux, et parce que cette époque-là, on est en plein culte du corps.
Absolument. Alors, à l'époque où il peint ce tableau, le dogme du régime socialiste n'est pas encore tout à fait défini. On peut encore vaguement expérimenter. Pour ce qui est du culte du corps, il est tout à fait prégnant à cette époque, puisque le sport est une valeur cardinale en Union soviétique. On le met en avant pour ses valeurs de discipline, de maîtrise de soi et également de détermination volontaire.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Prizemlica u trunciere medjevo, noć u bilo njedu zna. Čudoro bubišo šedja mi vino, slas furuška je znana. Je slova vezeze, je šestiv kak nikom dana. Вся в ньому домой, ждет меня любовь давно. Распакуем завтра чемоданчик мой, а мобильник им в окно. Я снова везе-зе-зе, я счастлив как никогда. Снова везе, снова везе, снова везе-зе-зе. Из Минска и из Киева девчата мне милы. Девчонки.
L'expo Rouge Art et Utopie au pays des Soviets, c'est jusqu'au 1er juillet au Grand Palais à Paris. Une exposition en deux parties et sur deux étages du Grand Palais, comme vient de nous l'expliquer le commissaire de l'expo, mon invité ce matin, Nicolas Liouchi-Gutnikov. Il y a donc cette partie foisonnante de révolutionnaire et puis l'autre partie, c'est-à-dire la partie d'un art officiel stalinien, mais même là on trouve quelques chefs-d'œuvre. Et vous disiez tout à l'heure, Nicolas Liouchi-Gutnikov, qu'il y avait tout ce côté kitsch qui était exposé, mais le mot que l'on puisse dire, c'est que ce kitsch, il se marie très bien avec un autre kitsch, lui, du Grand Palais.
Exactement.
Avec les grands volumes, ouais.
C'est tout à fait saisissant. J'ai moi-même été saisi de l'effet que tout cela produisait. Dans le grand escalier qui sépare les deux étages, nous avons mis un portrait monumental de Staline, ou pour être plus précis, la photographie d'une décoration urbaine représentant un Staline colossal sur la place rouge qui fait au moins 10 fois la taille d'un être humain. Et d'ailleurs, on voit un petit homme qui est au pied de ce colosse qui menace de l'écraser. Et en installant donc cette grande banderole qui représente cette décoration urbaine de l'époque stalinienne, je me suis dit qu'en effet, le Grand Palais, par son architecture elle-même kitsch, Grand Palais a été construit quand même à une époque où l'architecture moderne prenait son essor, je me suis dit que il y avait en effet quelques liens tout à fait troublants entre ce bâtiment et puis ce qu'on allait y montrer.
La deuxième partie, qui est plus consacrée à l'art soviétique, l'art de propagande, ce qui nous étonne, c'est qu'on trouve quand même quelques œuvres qui, avec le temps, même si elles gardent leur caractère de propagande, même kitsch, avec leur temps, gagnent en intensité artistique.
Absolument.
Et donc on trouve des chefs-d'œuvre dans cette partie-là.
Écoutez, on trouve des chefs-d'œuvre, surtout lorsque l'on aime la peinture figurative et que considère que l'art du XXe siècle n'a pas à se réduire à l'art abstrait. On trouve de réels chefs-d'œuvre. Un autre chef-d'œuvre qui me plaît énormément, toujours dans la salle consacrée au sport, est une grande peinture de Samorvalov qui représente des komsomols militarisés. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Les komsomols, ce sont des jeunesses communistes qui sont militarisées. Sur la peinture, on voit une vue, un grand paysage avec tout à fait à l'arrière-plan de jeunes komsomols en maillot de bain qui gambadent. Et plus on s'avance vers le premier plan, plus on voit qu'ils sont organisés, plus leur tenue de sport se transforme en des tenues militaires, et puis ils finissent évidemment par s'entraîner au tir. On est dans les années 30, Staline a hystérisé la population dans la crainte d'une éventuelle agression extérieure. Ce qui est fascinant avec cette peinture, c'est de voir combien elle incorpore, là encore, les acquis de la modernité, de la photographie et du photomontage, comment tout cela a un devenir pictural, que l'on connaît, je pense, encore pas assez, et comment tout cela permet aussi des peintures dans lesquelles des temporalités différenciées sont montrées, un avant, celui de Komsomol en train de faire du sport, et un après, celui de Komsomol transformé en des militaires.
Et il faut préciser peut-être que Nicolas Liouchi Gutnikov, que dans cette exposition, il y a bien sûr des artistes russes pour la plupart, mais il y a aussi tous les artistes étrangers qui ont été attirés par la révolution russe et qui vont aller à Moscou ou dans d'autres villes de l'Union soviétique pour produire et pour être complètement solidaire de ce mouvement artistique.
Absolument, ça c'est une dimension, je pense, assez inédite en matière expographique. Nous avons consacré une salle à ces artistes proches de la mouvance communiste qui vont vouloir impérativement faire le voyage dans la patrie du socialisme.
Hongrois, des Américains.
On va croiser donc des Américains du fameux John Reed's Club. On verra notamment des œuvres destinées à une publication presse, notamment des dessins satiriques contre le capitalisme. On verra une grosse truie, on peut le dire, allaitant des capitalistes et ayant tatoué sur son corps J.P. Morgan, donc une féroce critique déjà du système bancaire à l'époque. On verra aussi une journée de la femme dans l'Allemagne nazie avec une femme mise en croix sur une croix gammée. On y verra aussi, on se rappellera que le grand muraliste mexicain Diego Rivera a fait le voyage en URSS. En 1927, il est invité pour les 10 ans de la Révolution d'octobre. Il reste plusieurs mois sur place, il participe à des débats, à des conférences, et on lui passe même commande d'une fresque pour la maison de l'Armée Rouge. Et puis enfin, on y retrouvera le grand photomonteur allemand John Hartfield, qui va être invité début des années 30 en URSS, où il aura la première exposition monographique de sa vie.
Voilà, ça, on est encore dans l'utopie, dans l'étage au-dessus, on est plutôt dans la désillusion et surtout dans la censure, puisqu'on voit la censure dans quelques œuvres qui deviennent, avec le temps, des œuvres très précieuses.
Alors la censure,
Ce sont des visages qui disparaissent des livres, des photos.
Plutôt.
Et la retouche, oui, bien sûr.
La retouche, elle est fondamentale, puisque dans l'exposition, il n'était pas question de passer sous silence les crimes du stalinisme. Et nous avons pensé qu'elle permettait justement de montrer comment les artistes avaient eux-mêmes intériorisé la menace qui planait sur eux. Et nous montrons notamment un exemplaire d'un ouvrage qui a été conçu par Rodchenko, un très bel ouvrage, conçu pour les 10 ans de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Nous montrons deux exemplaires de cet ouvrage, dont un qui a appartenu à Rodchenko lui-même, sur lequel des figures sont biffées par l'artiste lui-même.
Effectivement, c'est terrible ce qu'il y a, mais l'ensemble reste beau.
Oui, mais ce qui est absolument effrayant, c'est que l'artiste les biffe, puisque ces personnes ont été entre-temps déclarées ennemies du peuple, et que Rodchenko craint qu'en conservant chez lui un tel ouvrage avec des figures d'ennemis du peuple, on puisse l'accuser lui-même de déviance. Et donc, il préfère biffer immédiatement ses propres ouvrages.
Et d'une manière artistique, ça donne des ombres noires à côté de d'autres visages. Nicolas Liouti-Gutnikov, on va peut-être parler de cette représentation qui pourrait résumer l'exposition Utopie et que vous avez sous les yeux et qu'on peut retrouver à la page du Réveil culturel.
Alors, elle peut la résumer, mais elle peut...
Ou du moins résumer les époques de l'exposition.
Bien sûr, elle résume les différentes époques de l'exposition et elle résume également le mensonge qui est formulé à l'époque stalinienne. On y voit en effet, c'est un quadruple portrait, un photomontage de Gustav Kloutsis, le grand photomonteur letton, qui représente les quatre... figures tutélaires du communisme que sont Karl Marx, Friedrich Engels, Lénine et Staline. Karl Marx est représenté sur fond de prise de la Bastille, Engels est représenté sur fond de commune, Lénine est représenté sur fond de révolution d'octobre, ça va sans dire, et Staline est représenté sur fond de paradis communiste. Évidemment, il n'y a plus de lutte. Un grand barrage sur le Dniepr a été construit. Les populations sous l'image de Staline sont unies, radieuses, tournées vers l'avenir de façon tout à fait enthousiaste. Et ce qu'il faut signaler, c'est que ce quadruple portrait a été réalisé en 1933 par Kloutsis, un artiste qui va, en dépit de ses œuvres de nature propagandiste, être victime de la répression stalinienne, puisque ce grand génie du photomontage est exécuté en 1938, accusé de faire partie d'un complot de personnalités lettonnes contre l'État soviétique. Donc, cette période est tout à fait trouble, elle est tragique, elle a donné évidemment le meilleur parfois.
C'était facile de travailler avec les musées russes, avec l'État russe pour récupérer quelques objets, Nicolas Liouti-Gutnikov, parce qu'il n'y a pas que des collections privées, il y a aussi quelques objets des musées russes d'aujourd'hui.
Il n'y a quasiment que des œuvres venant de musées russes qu'on a rarement vues en France, et je dois dire, peut-être à la surprise de ceux qui m'écouteront, que les musées russes n'ont absolument jamais exercé la moindre pression, ni même le moindre droit de regard sur le choix des œuvres. J'ai travaillé en toute liberté. Les convoyeurs des œuvres pendant le montage qui venaient de Russie m'ont dit qu'ils étaient, cela dit, stupéfaits qu'on ait pu réunir autant d'œuvres de deux périodes telles que celles que nous montrons dans l'exposition, dans une exposition justement, en me disant qu'en Russie, une telle exposition ne pourrait probablement pas avoir lieu en raison de l'attitude toujours extrêmement ambiguë que le pouvoir aujourd'hui russe maintient en direction de sa propre histoire.
Nicolas Liouti-Gutnikov, est-ce que vous avez des racines russes, je suppose, vu votre nom ?
Ma mère est russe, mais figurez-vous que quand j'étais enfant, j'allais voir donc ma famille qui vivait en URSS à l'époque. J'avais même un passeport soviétique. Et quand j'allais les voir l'été, j'étais tout à fait fasciné, il faut le dire, par ces grandes installations de propagande que je voyais dans les villes. J'étais un tout petit garçon, bien entendu. Et je pense que c'est aussi cela qui m'a donné cette... envie de revenir sur cette période qui a fait vraiment partie de mon imaginaire.
Y a-t-il un art communiste? C'est le titre de la conférence que va donner Jacques Rancière au Grand Palais autour de cette exposition Rouge, art et utopie au pays des soviets. Ce sera le mercredi 10 avril à 18h30. Pour terminer, dernière question, Nicolas Liouchi-Gutnikov. Poutine, qui est un produit ou qui a été formé par l'esprit de l'Union soviétique, est-ce qu'aujourd'hui il a le même rapport à l'art et aux artistes?
On ne peut évidemment pas comparer les deux périodes. Aujourd'hui, en Russie, l'art n'est pas organisé dans une union des artistes telle qu'elle l'était
à l'époque soviétique. Il n'est pas sous tutelle de l'État, vous voulez dire ?
Il n'est pas sous tutelle de l'État. Vous avez des artistes contemporains qui travaillent librement. Vous avez évidemment de la censure, ça va sans dire. Les musées ne peuvent pas sans doute tout montrer. Mais il est évident que les situations n'est pas comparable. On souhaite évidemment que elle ne devienne pas ce qu'elle a pu être par le passé. Je le souhaite évidemment vivement, mais la Russie demeure en matière artistique un pays où on peut encore travailler d'une façon, je pense, correcte.
Merci Nicolas Liouchi-Gutnikov. L'exposition autour de l'art communiste, c'est-à-dire Rouge, art et utopie au pays des soviets, c'est jusqu'au 1er juillet au Grand Palais.
And you'll have to be